Bonjour Monseigneur.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de la laïcité, puisque donc le 9 décembre dernier, nous fêtions les 120 ans de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Comment fait-on mémoire de cet événement ?
Alors, il y a eu des colloques, c'est vrai que maintenant on est en 2026, mais il y a eu des colloques, il y a eu des sessions, il y a eu des conférences qui ont été organisées en France autour du 9 décembre 2025. En particulier d'ailleurs, le 11 décembre à Nîmes, il y a eu un colloque très intéressant organisé par l'Ordre des avocats à l'Université de Nîmes, en partenariat avec le tribunal administratif, où des juristes et des historiens ont pris la parole sur cette thématique, parce que, évidemment, la loi de la laïcité, elle est assez large et elle concerne beaucoup de domaines de la vie publique.
Alors, comment peut-on présenter le principe de laïcité ?
Alors, c'est important, on peut peut-être commencer par cette citation de l'Évangile pour comprendre la question de la laïcité. Rappelez-vous, quand on interroge Jésus, en lui demandant s'il faut payer l'impôt à César, il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, verset 25. Là, Jésus sépare ce qui pourrait être confondu ou confus, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Il sépare le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Rappelez-vous aussi comment il dit à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors le christianisme est porteur de cette distinction, là où les sociétés anciennes soumettaient le politique à la tutelle du religieux. En Égypte, le pharaon est à la fois détenteur du pouvoir religieux et du pouvoir politique. Et justement, là, avec cette citation de l'Évangile, elle nous permet aussi de voir comment est-ce que, dans notre foi chrétienne, on sépare bien le temporel du spirituel. Et du coup, vous voyez, l'Évangile désacralise le pouvoir politique en rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, il dépolitise également le pouvoir religieux. Les normes religieuses n'ont pas à devenir des normes politiques. C'est important de bien voir ce que cette séparation des pouvoirs contient. Et alors, lorsque Jean-Paul II écrit au cardinal Ricard au moment du centenaire de la loi de 1905, donc en 2005, on a fêté le centenaire, pape Jean-Paul II écrivait « Le principe de laïcité auquel votre pays est très attaché, s'il est bien compris, appartient aussi à la doctrine sociale de l'Église. Il rappelle la nécessité d'une juste séparation des pouvoirs, qui fait écho à l'invitation du Christ et à ses disciples, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Voilà. Et alors là, ce qui est assez intéressant quand on lit un peu, parce qu'il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de littérature sur la question de la laïcité, Valentine Zuber, qui est une historienne spécialiste de l'histoire de la liberté religieuse et de la laïcité, elle donne trois critères constitutifs de la laïcité. D'abord, le respect par l'État de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. Ça fait vraiment partie de la loi de séparation. Donc le respect par l'État de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. L'autonomie de l'État par rapport à des normes religieuses aussi. Et le principe de non-discrimination des personnes en fonction de leur appartenance religieuse. Eh bien, tout le monde est égal devant la loi. Et donc là, on voit que, vous voyez, il y a un principe définissant la laïcité, ou bien des principes qui définissent la laïcité. Ensuite, il y a des régimes de laïcité qui ne sont pas les mêmes dans différents pays. Par exemple, vous voyez, les USA, c'est un pays qui est laïque. Évidemment, le Mexique aussi est un État laïque. Mais on a toujours le même principe, mais qui s'exprime dans des histoires et des régimes différents. C'est-à-dire qu'on ne vit pas du tout la laïcité de la même manière aux États-Unis, où tout le monde peut parler de sa foi, où il y a marqué « In God we trust » sur les dollars, où tout le monde dit « God bless you ». Donc, ce n'est pas du tout vécu de la même manière aux États-Unis. Et en France, ça, c'était important, vous voyez, de le comprendre, parce que la laïcité, à la fois, c'est le même principe, mais elle s'incarne ensuite dans des sociétés de manière différente.
Justement, vous parliez de la France. De quelle laïcité, donc, parlons-nous en France ?
Alors, nous, quand on parle de la laïcité, évidemment, on pense à la loi de 1905. Alors, moi, je voudrais dire pour vos auditeurs, parce que je ne sais pas si on entend beaucoup, quel est l'article 1 de cette loi de séparation ? Eh bien, l'article 1 dit « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Donc, il y a une reconnaissance en premier lieu de la liberté de conscience et de l'exercice des cultes. Et donc, ça, c'est un régime de liberté. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs courants qui ont porté la loi de séparation. Et c'est finalement Aristide Briand, peut-être que les auditeurs le connaissent. Vous savez, il y a des boulevards Aristide Briand, il y a des rues Aristide Briand.
Le nom est très connu.
Et alors, lui, il a été rapporteur de la loi contre un courant qui voulait émanciper les citoyens de la religion. Briand a voulu une loi de séparation respectueuse de la liberté de conscience et du chemin de liberté des catholiques. Au fond, il n'a pas voulu une séparation autoritaire, mais pluraliste dans ce sens-là. Bon, ça n'a pas empêché des tensions très fortes au moment des inventaires. Et on se souvient dans le Gard comment des églises comme celle de Sumène ont gardé les traces de l'inventaire, parce qu'il y a encore les marques des coups de crosse pour ouvrir l'église. Mais si vous voulez, quand je dis qu'il n'a pas voulu une séparation autoritaire, je le dis simplement au niveau de la philosophie du projet de loi.
Voilà. Ouais.
Donc c'est important de se dire, il n'y a pas eu deux courants qui se sont imposés, il y a eu plusieurs courants. Il y a un film qui s'appelle La séparation, que je recommande aux auditeurs, parce qu'il est assez intéressant. Voilà, il montre un peu justement la diversité de ces courants, et qui montre comment ce que Aristide Briand a été une sorte de juste milieu au moment du vote de cette loi. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir l'article 2 qui dit « La République ». Donc, vous voyez, d'abord, l'article 1, on reconnaît la liberté de conscience, la liberté de culte, et puis ensuite, « La République », dit l'article 2, « ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Hein, c'est important ça parce que pour garantir l'exercice du culte, il fallait que dans les lycées, par exemple, où il y avait des internes, qui restaient le week-end aussi, eh bien on assure la messe.
Bien sûr.
Dans les hôpitaux, dans les aumôneries, encore à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'il y a des aumôniers qui sont financés par les hôpitaux publics, ou bien dans les prisons aussi, il y a un financement pour les aumôneries. Il n'y a pas que l'aumônerie catholique, il y a l'aumônerie protestante, il y a l'aumônerie musulmane. D'ailleurs, on se connaît ici, entre aumôniers. Les aumôniers travaillent très bien au CHU de Nîmes. Il y a une très bonne équipe qui se connaît, qui est au service justement des personnes qui sont hospitalisées.
Et comme vous le dites, c'est sur l'exercice du culte, c'est sur la pratique.
Hein, exactement. Ouais. Ce qui est important, c'est de voir qu'en France, la laïcité, c'est la laïcité de l'État. Hein, ce qui signifie que contrairement à ce qui se passait au XIXe siècle, avec le concordat voulu par Napoléon, l'État français a décidé de ne plus avoir avec les cultes une relation organique, de ne plus les reconnaître comme des organismes de droit public, comme c'était le cas auparavant. Donc on sort, vous voyez, au moment de la loi de 1905, il faut bien avoir en tête qu'on sort du concordat. À l'époque, d'ailleurs, l'Alsace et la Moselle étaient allemands. Et donc, quand ils sont revenus dans le giron de la République française en 1918, on n'a pas retiré le concordat à l'Alsace-Moselle. Et donc, il y a encore un concordat là-bas. D'accord. C'est-à-dire que dans les écoles publiques, on enseigne la foi. Les prêtres sont encore payés par l'État. On peut vivre l'esprit de la laïcité avec un concordat. Il a été décidé en 1905 que les cultes en France n'auraient plus un statut officiel, que les ministres du culte ne seraient plus payés par l'État et que ces cultes ne recevraient plus de subventions. Bref, que les cultes étaient désormais régis par le droit privé. Mais l'État s'engageait aussi à ne pas intervenir dans le fonctionnement de ces cultes. Parce qu'il faut voir que, par exemple, sous le concordat, les évêques ne pouvaient pas se réunir entre eux. Et quand ils quittaient le département, il fallait qu'ils préviennent le préfet. Donc le concordat, il était dans les deux sens. Il accordait un soutien financier, si je puis dire, à l'Église. Mais l'État avait aussi une sorte de prégnance sur la vie de l'Église catholique ou bien des religions, quoi.
Alors, est-ce que cela finalement signifie que l'État français ignore la religion ? Comment on pourrait l'expliquer ?
Non, parce qu'il reconnaît la liberté de conscience et de libre exercice des cultes, comme on l'a dit. Hein. Et puis, il reconnaît aussi la dimension sociale de ces cultes et assure à chacun, vous voyez, la possibilité de pratiquer son culte. Le cardinal Ricard faisait une conférence en 2012, et il avait dit « Laïcité de l'État ne veut donc pas dire refus ou ignorance des religions, mais non-inféodation et distinction des domaines. » La séparation n'interdit pas les relations, mais les instaure sur d'autres bases. Voilà, bah, on sait très bien que, en fait, il n'y a pas d'ignorance. Hein, d'abord parce qu'il y a une reconnaissance des religions. Et puis, vous savez comment, par exemple, nos églises d'avant 1905, les églises de village, les églises de nos communes, elles appartiennent à la municipalité et la municipalité doit les entretenir et il y a tout un travail. Par exemple, la cathédrale de Nîmes, bon, sa façade a été complètement refaite, c'est l'État qui finance les cathédrales. Mmh. Et donc, il y a un travail de collaboration, il y a un dialogue. Et puis, on sait très bien aussi comment... Ben, les représentants des cultes sont invités aussi pour le 14 juillet, pour le 11 novembre, pour un certain nombre de célébrations, disons, républicaines. Donc on n'est pas du tout dans une ignorance réciproque, mais simplement chacun a ses domaines. Et la loi de 1905 se vide de cette manière. Et l'Église a le droit aussi à la liberté d'expression, à la liberté d'enseignement, la liberté d'évangélisation, a le droit d'accomplir des actes de culte en public, comme elle a le droit de s'organiser, d'avoir des œuvres caritatives, de posséder des biens, de s'associer, d'avoir ses propres règlements internes. Là, l'État ne conteste pas du tout cela. Hein, donc il y a une véritable vie. Et l'évangélisation, de ce point de vue, n'est pas du tout une entorse à la laïcité. Hein, ce qui est en jeu, c'est la possibilité que nous, chrétiens, nous avons de dire dans l'espace public le projet de Dieu pour l'homme et pour la société. Et ça, évidemment, c'est reconnu. En annonçant Jésus-Christ, nous ne faisons pas du prosélytisme, mais nous procurons une lumière nouvelle pour regarder son existence personnelle et les événements du monde à la lumière du Christ mort et ressuscité. Et c'est ainsi que nous contribuons à la vie sociale, à construire le monde dans lequel nous habitons. Tout cela ne nous est pas dénié par le pouvoir politique, évidemment.
Par rapport à ce que vous dites sur l'évangélisation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution récente de la mise en pratique du principe de laïcité ?
C'est-à-dire que, vous voyez, il y avait une loi de 1905 qui était quand même une loi de liberté pour le culte. Les évolutions récentes, c'est d'abord d'essayer de remplacer le concept de laïcité par celui de neutralité. Il faudrait que l'espace public soit comme une sorte d'espace neutre, débarrassé de toute idée de religion, de toute idée de foi. Et ça, c'est porté plutôt par des personnes, par des groupes, par des courants, mais qui sont assez prégnants quand même. Certains disent, ben, les religions divisent, parce qu'on n'est pas d'accord sur la foi, et donc, comme elles divisent, il vaut mieux pas en parler, et puis il vaut mieux qu'elles n'apparaissent pas, qu'elles ne se disent pas dans l'espace public, mais plutôt, bon, c'est des affaires privées, c'est des affaires intimes, et donc, n'en parlons pas. Je vois que parfois, même des chrétiens ont un peu intériorisé cette injonction en disant, bah oui, il ne faut pas parler de religion. Moi, je pense qu'il faut être assez décomplexé. Il ne s'agit pas de forcer les gens à croire, ni quoi que ce soit. Mais je pense que si ça fait partie de notre vie, on a le droit d'en parler. Vous voyez, l'espace public, ça ne peut pas être un espace neutre, parce que c'est précisément l'espace de la rencontre, du dialogue, éventuellement du lieu de la confrontation des idées, dans le respect mutuel. Mais l'espace public ne peut pas devenir une sorte d'espace aseptisé sous le contrôle de l'État, parce que ça ne serait pas juste, vous voyez. Donc, au fond, l'État est laïque, mais la société ne l'est pas. La société, elle est faite de tous les courants de pensée, de tout ce que nous pouvons croire ou ne pas croire, d'ailleurs. Il faut que dans l'espace public, il y ait aussi la possibilité de ne pas croire, hein, évidemment. Mais on ne peut pas dire, dans l'espace public, il ne faut plus qu'il y ait de signes ou de paroles qui soient associées à une foi quelconque. La grande évolution aussi, c'est la loi CRPR, qui est une loi de 2021 contre le séparatisme dans la République. Et malheureusement, dans cette loi, alors que la loi de 1905, les associations cultuelles, vous savez, les associations cultuelles, c'est les associations qui portent l'organisation, disons, devant l'État, devant la République, des religions. Nous avons une association pour le diocèse de Nîmes, bon. Mais ces associations avaient une sorte de marge d'autonomie et puis les contrôles étaient modérés. Dans la loi de 2021, on impose une déclaration tous les 5 ans à la préfecture. Donc tous les 5 ans, le préfet peut donner ou non une autorisation à l'association cultuelle de continuer ses activités ou non. Et donc on passe d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Vous voyez, c'est une sorte de fermeture, comme une radicalisation un peu du principe de laïcité. Cela dit, une enquête récente faite par 2 universitaires montre que les jeunes ne croient pas à une laïcité surplombante, c'est-à-dire une laïcité qui définirait tout. Et il croit à une laïcité libérale, plus proche de la loi de 1905. Les jeunes n'ont pas peur des signes religieux, n'ont pas peur de voir des amis confesser leur foi. Ils ont l'idée d'une société, vous voyez, assez plurielle. Ils ne veulent pas d'une laïcité, vous voyez, qui finalement éteint toute manifestation de sa foi, y compris en public.
Ce qui est aussi le cas sur les réseaux sociaux, où finalement les gens s'expriment également.
Oui. Et effectivement. Je parlais l'autre jour avec une famille. Beaucoup de jeunes, en faisant leurs études, vont passer un an ou six mois ailleurs, en Europe ou bien dans le monde. Et ils voient des modèles très, très différents. C'est là où le modèle de laïcité à la française, il n'est plus, vous voyez, l'unique modèle, l'unique, disons, système de pensée. Et donc, ils voient autre chose. Et puis, ils rapportent cela. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, c'est mieux. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un décalage entre à la fois ce que voient les jeunes, ce qu'ils rapportent, ce qu'ils portent en eux, et puis... Vous voyez, une sorte de laïcisme qui renferme dans notre pays.
Alors, de son côté, est-ce que l'Église accepte le principe de laïcité ?
Ben oui, comme je l'ai dit au début avec ce discours du pape Jean-Paul II, l'Église ne cherche pas un pouvoir temporel, ça, il faut que ça soit vraiment très clair. Elle se comprend comme une communauté envoyée au milieu du monde pour le servir et lui annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Et donc, elle est dans un pays et puis elle sert le monde. Il y a une notion de service de l'humanité. Elle dit sa foi. Voilà. Et elle veut, en annonçant l'Évangile, éclairer et puis alerter les consciences. Voilà. Et donc, comme je le disais, la laïcité fait vraiment partie de l'enseignement social de l'Église, si elle est bien comprise, dit Jean-Paul II, si elle est bien comprise. C'est-à-dire, il y a vraiment...
Une condition.
Alors, je finis justement par une citation du pape Benoît XVI, c'était en 2012, à la fin d'un synode sur le Moyen-Orient. Le pape Benoît dit « La saine laïcité signifie libérer la croyance du poids de la politique et enrichir la politique par les apports de la croyance ». En maintenant la nécessaire distance, la claire distinction et l'indispensable collaboration entre les deux. Aucune société ne peut se développer sainement sans affirmer le respect réciproque entre politique et religion, en évitant la tentation constante du mélange et de l'opposition. Alors, il le dit devant les évêques du Moyen-Orient, en disant bah, « Attention, oui, il y a quelque chose de très juste de séparer le pouvoir politique et puis le pouvoir religieux. Ça ne peut pas être confondu. Et à la fois, il faut que ces deux... pouvoir, si on peut dire, ou en tout cas la réalité de la religion et puis le pouvoir politique, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils s'enrichissent mutuellement, il faut qu'ils se servent mutuellement, si on peut dire. Et c'est comme ça que, justement, on peut arriver à une laïcité saine, une laïcité qui fait, disons, progresser chacun et qui aide, justement, les croyants à vivre dans une société laïque, dans une société républicaine, dans une société démocratique, comme nous le vivons chez nous en France.
Très bien. Merci, Monseigneur, pour cet échange.
Merci, Laurence.